bonne nouvelle d'après Luc, lecture suivie de l'évangile de saint Luc dans une traduction transposition de Vincent-Paul Toccoli, salésien de Don Bosco.
L'épisode précédent nous montrait une action typique de Pierre accompagné de Jean, la guérison du paralytique de la belle porte au temple de Jérusalem et l'occasion que cela leur donne d'annoncer le kérig, c'est-à-dire la bonne nouvelle de Jésus mort et ressuscité. La communauté elle-même, comment se comportait-elle? Eh bien, nous avons une information dans l'épisode qui suit. Que faisait-on dans la communauté? Comment elle vivait?
Tous ceux qui avaient embrassé la foi nouvelle, et ils étaient de plus en plus nombreux, n'avaient qu'un seul cœur et qu'une seule âme. On ne gardait pas égoïstement ce qu'on possédait. On mettait tout en commun. Le témoignage rendu par les apôtres et la résurrection du Seigneur Jésus était accompagné de puissants prodiges, et la grâce, avec largesse, coulait en eux tous. Personne n'était dans le besoin. Les propriétaires de terrains, de maisons, vendaient tout et en déposaient le prix dans les mains des apôtres, et chacun en recevait une part suivant ses besoins. Joseph, par exemple, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui veut dire « l'homme du réconfort », Joseph donc possédait un champ. C'était un Lévite, originaire de Chypre. Eh bien, il vendit son champ et en remit le montant aux apôtres. Un certain Ananias vendit lui aussi une propriété, d'accord avec Saphira, sa femme. Mais de connivence avec elle, il retint une partie du montant et apporta le reste aux apôtres. Pierre sentit que tout cela n'était pas clair. « Ananias, lui dit-il, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Tu as menti à l'Esprit-Saint en retenant une partie du prix du terrain. Pourquoi ne l'avoir pas gardé sans le vendre? Ou pourquoi ne pas le vendre ou disposer du prix à ton gré? Comment ce projet a-t-il pu te venir au cœur? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, c'est à Dieu. » À ces mots, Ananias tomba à terre et expira. Sur le champ. Ce qui ne manqua pas d'impressionner tous les spectateurs, y compris les jeunes gens qu'on dépêcha pour emmener le corps et l'enterrer. Trois heures ne s'étaient pas écoulées que Saphira, sa femme, entra chez Pierre sans savoir ce qui était arrivé. Elle se mit à la recherche de son mari, quand Pierre l'interpella. « Dis-moi, ce terrain, c'est bien ce prix que vous l'avez vendu ?» Les autres fit cercle autour d'eux, préparés au pire. « Oui, c'est bien ce prix-là, » répondit Saphira. « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'esprit du Seigneur ?» La tension était à son comble dans la salle. « Écoute, Saphira, les pas de ceux qui viennent d'enterrer ton mari résonnent encore à la porte. » Ils vont t'emporter, toi aussi. » Effectivement, elle s'affaissa là et expira. Quand les jeunes entrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent en silence pour l'enterrer auprès de son mari. Cela fit grande impression sur toute l'église et sur tous ceux qui apprenaient cet événement. D'ailleurs, beaucoup de signes et de prodiges de toutes sortes s'accomplissaient dans la population par la main des apôtres. Toute la communauté unanime avait pris l'habitude de se tenir sous le portique de Salomon, mais tout en faisant leur éloge, personne n'osait guère s'agréger à eux. Paradoxalement, on ne comptait plus le nombre de celles et de ceux qui se ralliaient par la foi au Seigneur. C'était indescriptible. On en venait à sortir les malades dans les rues afin que Pierre, au passage, touche au moins l'un ou l'autre de son nombre. On accourait des localités voisines de Jérusalem en transportant les malades ou des personnes que tourmentaient les esprits immondes. Et tous étaient guéris. Ce qui jeta naturellement dans une fureur monstre le grand prêtre et son entourage, en fait le parti des Sadducéens, particulièrement hostile aux disciples de Jésus. Ils firent appréhender les apôtres et les jetèrent cette fois-ci dans la prison publique. Pleins de confiance, nos amis ne furent pas étonnés de voir venir pendant la nuit leur ouvrir les portes de la prison un envoyé du Seigneur qui leur dit « Allez, retournez au temple et continuez de proclamer toutes ces paroles de vie. » Et dès le point du jour, les voici de nouveau dans le temple à enseigner. Cette fois, le grand prêtre et son entourage avaient convoqué tous les Sanhédrins, c'est-à-dire le Sénat des Israélites. On fit quérir les apôtres à la prison. On vint bien sûr. Nous avons trouvé la prison soigneusement close, rapportèrent les serviteurs et les gardes en faction devant les portes. Mais à l'intérieur, personne. Vous imaginez la perplexité du commandant du temple et des grands prêtres. Qu'avait-il bien pu se passer encore? À cet instant, quelqu'un se présenta pour leur annoncer. « Ces hommes que vous aviez jetés en prison, ils sont dans le temple et instruisent le peuple. » Le commandant partit aussitôt pour le temple, avec les serviteurs pour ramener les apôtres, mais sans violence toutefois. Le peuple pouvait les lapider illico presto. Et voici les apôtres devant le Sanhédrin, imperturbables. Le grand prêtre commença. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là, et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ? Ce fut une réponse imparable. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le pendant à la croix. C'est lui que Dieu a élevé par sa puissance comme prince et sauveur pour qu'Israël change de vie et soit pardonné de ses fautes. Nous sommes témoins de ces événements, nous et l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui croient en lui. Vous pensez bien que ces paroles ne firent qu'exaspérer leur colère. Ils projetaient de les supprimer. L'atmosphère n'avait jamais été aussi tendue. Un homme se leva pourtant du milieu du Sanhédrin. C'était un pharisien du nom de Gamaliel, un professeur de théologie de tendance libérale dans l'interprétation de la loi. Tout le peuple et ses élèves l'estimaient. Il ordonna de faire sortir un instant les prévenus. Il prit tout son temps, puis il déclara en pesant chacun de ces mots. « Israélites, faites bien attention à ce que vous allez faire dans le cas de ces gens. Ces derniers temps, on a vu surgir Théodas. Il prétendait que quelqu'un y avait rallié environ 400 hommes. Il a été tué. Ses compagnons se sont débandés et il n'en est rien resté. Tout le monde se souvenait de ce fou et on échangea quelques commentaires. Gamaliel se racla la gorge, le silence revint. On a vu surgir ensuite Judas le Galiléen à l'époque du recensement, il y a un peu plus de 30 ans. Il avait lui aussi soulevé du monde à sa suite. Lui aussi a péri, et les compagnons qui lui sont restés, les Zélotes, n'ont plus le poids qu'ils avaient jadis. De nouveau les commentaires parcoururent l'assemblée, mais aussi le groupe des apôtres où Jacques et Jean donnaient des coups de coude à Simon, leur Zélote de service. Gamaliel se racla la gorge une seconde fois. « Alors je vous le dis tout net, ne vous occupez plus de ces gens et relaxez-les. Si leur entreprise ou leur résolution vient des hommes, elle disparaîtra d'elle-même. Si c'est de Dieu, vous ne pourrez pas les faire disparaître et n'allez pas risquer de vous trouver en guerre avec Dieu. » J'ai dit. Gamaliel se rassit comme il s'est élevé, imperturbable. On se rangea vite à son avis. D'ailleurs, c'était le seul. On rappela les apôtres, on leur fit donner les verges, au moins ça. Et après leur avoir enjoint de ne plus prononcer le nom de Jésus, ils les relâchèrent. Les apôtres qui quittèrent le Sanhédrin au plus vite, et pourtant tout heureux d'avoir été trouvés dignes de subir des outrages pour le nom, c'est-à-dire pour le Seigneur. Et chaque jour, dans le temple comme chez eux, ils continuèrent comme devant d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus et le Messie. Thank you.
bien, ça tient un peu la vie de la communauté. La première, c'est le partage des biens, comme vous l'avez vu. Une espèce de communisme, de communautarisme, de vie entre soi, de solidarité, un fonds national, un fonds municipal. Donc, il semble qu'on partagea tout, à l'époque. Mais il y avait ces exigences, et on nous montre ici encore par un fait fabuleux que celui qui ment, c'est à Dieu qu'il ment, puisqu'il s'est engagé par lui-même. Vous savez, cela, ça rappelle un peu les professions religieuses, du religieux, justement, du moine, qui promet par vœu à Dieu pauvreté, chasteté, obéissance. C'est une affaire entre lui et Dieu. S'il manque, il manque à Dieu. Il manque à sa parole envers Dieu. Et puis l'autre épisode, c'est celui de la prédication et surtout de ce merveilleux événement de la libération de la prison. Sans que rien ne se passe, et bon, il y a un peu un côté bande dessinée, très adroitement mis au point par lui, qui, comme je vous l'ai toujours dit, raconte très très bien. On les croit à la prison, ils sont dans le temple, on est en train de vouloir les condamner, on vient annoncer qu'ils sont en train de prêcher, et puis l'événement, ce Gamaliel, qui, paraît-il, aurait été le professeur de Paul, Saül, qui donne une règle de conduite, on dirait une éthique politique du comportement. Si ces choses-là doivent comment s'écrouler, elles s'écrouleront de même, comme tous ces révolutionnaires un peu hâtifs, généreux certainement, se sont écroulés eux-mêmes. Ici Thaddeus, ici un autre Barabbas. Mais si ce Jésus et ceux qui le suivent viennent de la part de Dieu, méfiez-vous, méfiez-vous, n'allez pas vous trouver en guerre avec Dieu, dit ce Gamaliel. C'est le début, alors on ne sait pas très très bien qui fait quoi, ce que ça signifie, est-ce que ça va avoir un avenir. Luc agit adroitement avec notre attente, notre curiosité, le suspense, oui, Luc se révèle toujours un très très beau conteur.
C'était une bonne nouvelle d'après Luc, une traduction et un commentaire de Vincent-Paul Toccoli. Daniel Chavy a prêté sa voix pour la lecture. Merci et à bientôt.